Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue à vous qui nous joignez sur Radio Kapi, au micro Lievin Bouinga. À la une de l'actualité de ce midi, interdiction formelle au ministre de sanctionner les mandataires de l'État. Ainsi vient de décider le chef de l'État Félix Tshisekedi. Décision annoncée vendredi au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres. Vous suivrez les détails avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. L'actualité, ce sont aussi 447 candidats enseignants et directeurs d'écoles primaires qui viennent de passer une première phase de concours pour le compte de la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la ville de Bounia. Les gagnants vont consulter une banque de données de recrutement en cas de besoin. Les fidèles catholiques de Goma appelés à garder la foi malgré les difficultés qu'ils subissent. Message lancé par Mgr Willy Ngumbingengele, évêque du diocèse de Goma, à l'occasion de la célébration du dimanche des Rameaux. Il est d'ailleurs l'invité de Radio Kapi à suivre dans quelques minutes. Encore une fois, bonjour. Les actions disciplinaires à l'encontre des mandataires de l'État doivent désormais être communiquées au préalable au chef de l'État. L'objectif est qu'elles soient prises en toute transparence pour assurer la paix sociale dans les entreprises et établissements publics. Cette décision a été annoncée vendredi dernier au cours de la 39e réunion du Conseil des ministres. On écoute à ce sujet le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Le président de la République est revenu sur le constat des tensions concernant la gestion des actions disciplinaires à l'égard des mandataires publics, tant au sein des entreprises du portefeuille que des établissements publics de l'État. En vue de garantir le fonctionnement harmonieux et de préserver la paix sociale, le président de la République, sans préjudice des textes légaux et réglementaires, a décidé que toute initiative de suspension d'un mandataire public par sa tutelle lui soit désormais systématiquement communiquée pour approbation préalable et expresse. La première ministre informé. Cette mesure vise à assurer que toutes les décisions soient prises en toute transparence et conformément aux règles en vigueur. Tous les cas de suspension, litigieux et ceux contestés en cours doivent lui être communiqués dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le président de la République a engagé la première ministre à organiser régulièrement, avec le concours de son cabinet, du ministre du portefeuille, des sessions de formation à l'attention des responsables tant des entreprises et établissements publics que de la tutelle sur les procédures disciplinaires afin d'éviter les abus et de garantir les droits et les obligations des uns et des autres.
Cette mesure suscite évidemment bien de réactions. Nous vous proposons ce midi celle du coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, s'oppose totalement à l'idée de laisser au chef de l'État seul le pouvoir de suspendre les mandataires publics. Valérie Madianga est au téléphone de Michel Kifindangoy.
Une suspension n'est qu'une mesure conservatoire. Nous ne pensons pas qu'il faut que le président de la République puisse donner son quitus avant qu'on puisse suspendre celui qui a été soupçonné de mauvaise gouvernance ou bien un rapport qui établit la mauvaise gestion des mandataires doit en principe obtenir le quitus du président de la République qui n'a pas participé à l'enquête, qui n'a pas non plus participé à l'audit, même aux auditions, qui ne maîtrise pas bien les rouages des dossiers. Je pense que il n'est pas nécessaire que ces derniers puissent donner son quitus avant qu'on puisse suspendre un mandataire public. Si cela s'avérait que la mesure soit appliquée, je pense que c'est un grand recul sur le plan de la lutte contre la corruption. C'est aussi la centralisation des pouvoirs qui n'est pas bonne, qui n'est pas une mesure qui pourrait promouvoir l'état de droit, mais aussi la lutte contre la corruption. Il est grand temps que le président de la République puisse revenir à la raison pour favoriser son pilier lié à la lutte contre la corruption.
Autre actualité, urgence sanitaire et humanitaire dans les camps des réfugiés congolais au Burundi. Une délégation des députés nationaux médecins séjourne sur place. Leur mission, faire des consultations bénévoles de ces déplacés de guerre congolais se trouvant dans différents camps. Annoncée lors de la plénière de vendredi 4 avril dernier par le président de l'Assemblée nationale, cette délégation est déjà à pied d'œuvre sur le terrain depuis leur arrivée mardi 8 avril et signale des cas de malnutrition, paludisme, rougeole et choléra conduite par le professeur professeur Léon Kabamba. Cette délégation parlementaire est composée de 5 députés médecins et 2 autres élus des circonscriptions électorales proches des déplacés. Reportage Michel Kifindangoy. Voilà, nous allons revenir sur cet élément qui apparemment n'est pas encore prêt. Et puis, suspension du médecin directeur de l'hôpital provincial de Kinkanda et de 8 autres cadres de cette structure sanitaire de Matadi. Ils sont accusés d'avoir détourné une somme de 290 millions de francs congolais et de plusieurs autres irrégularités, d'après des sources proches de l'inspection provinciale de la santé du Congo central. Cette décision tombe après l'enquête diligentée par l'inspecteur provincial depuis décembre 2024. Et qui s'est bouclé en février dernier. Nana plus riche Mambou pour les détails.
Des sources proches de l'inspection provinciale de la santé révèlent que c'est l'inspecteur général de la santé Komba Djeko qui a instruit l'inspecteur provincial Sabin Ilunga de diligenter une mission d'enquête dans l'hôpital provincial de Kinkanda. Et c'est pour affirmer si réellement il y a eu détournement de fonds et matériels comme le dénoncent les agents de cette formation sanitaire. Cette enquête bouclée à la fin du mois de février 2025 s'est ouverte en décembre dernier. À l'issue de cette enquête, il ressort effectivement un détournement d'une somme de 290 millions de francs congolais pour l'exercice de l'année 2024. Plusieurs irrégularités ont également été constatées, notamment la pluralité des agents recouvreurs de fonds dans les sociétés conventionnées, le non-respect de la clé de répartition des recettes et j'en passe. D'après les résultats des enquêtes, ces détournements et ces irrégularités impliquent les médecins directeurs et 8 autres cadres de l'hôpital provincial de Kinkanda, dont 3 comptables, 3 caissières et 2 administrateurs gestionnaires chargés des finances et de la perception des fonds. Une suspension préventive a été décidée en leur encontre. L'inspection de la santé a par ailleurs envoyé les dossiers au parquet. Pour l'heure, la gestion de l'hôpital provincial de Kinkanda est confiée provisoirement à un autre médecin. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Voilà, je le disais tantôt, une délégation de députés nationaux médecins séjourne sur place au Burundi. Leur mission, faire des consultations bénévoles de ces déplacés de guerre congolais se trouvant dans différents camps. Annoncée lors de la plénière du vendredi 4 avril dernier par le président de l'Assemblée nationale, cette délégation est déjà à pied d'œuvre sur terrain depuis leur arrivée mardi 8 avril dernier et signale des cas de malnutrition, paludisme, rougeole et choléra. Reportage Michel Kifindangoy.
L'objectif de la mission des parlementaires médecins consiste en une consultation médicale bénévole des déplacés de guerre congolais au Burundi et des enseignements sur la prévention des maladies des mains sales. La mission étant axée sur une aide humanitaire et médicale aux déplacés, ces élus ont échangé pendant près de 4 heures avec les responsables santé et nutrition de HCR Burundi. De ces échanges, il ressort que le Burundi a accueilli au total plus de 70 000 nouveaux déplacés de guerre congolais répartis en 5 camps qui se sont ajoutés aux 100 000 déplacés urbains déjà présents dans ce pays. À en croire les rapports du HCR, la situation dans les camps reste débordée. Sur le plan sanitaire, des cas de malnutrition, rougeole, choléra, paludisme et 10% des hommes et femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles et plus ou moins 60 cas de maladies mentaux ont été détectés dès les premières évaluations. Plus de 100 enfants ont été vaccinés contre le paludisme, environ 7000 enfants contre la rougeole et 1300 contre la poliomyélite. L'insuffisance des lactrines avec plus ou moins une lactrine pour 1000 personnes au lieu d'une pour 50 comme réglementé pose un sérieux problème de santé publique.
Et puis ce geste de cœur dans un élan de solidarité nationale face aux défis sécuritaires, les confessions religieuses de la RDC ont apporté hier dimanche des vivres et non-vivres aux forces armées de la République démocratique du Congo et au groupe d'autodéfense Wazalendo. Ce don a été réceptionné par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale ici à Kinshasa. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
La délégation de ces confessions religieuses a été conduite par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Ces croyants ont remis une cargaison significative de vivres, de non-vivres et une enveloppe substantielle, fruit des offrandes des fidèles de diverses obédiences, témoignant ainsi l'unité du peuple congolais derrière ses forces de défense. Au nom du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a salué ces gestes, reconnaissant l'engagement des FARDC et des combattants Wazalendo dans la défense de l'intégrité territoriale. Alors, Guy Kabombo Mwadiamvita.
C'est au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République de Martinique du Congo, et de Madame la Première Ministre, chef du gouvernement. Et je tiens ici à vous remercier très sincèrement de ce geste louable au profit de nos vaillants militaires et nos patriotes volontaires pour la défense de la patrie, qui en ce moment sont au front pour faire face à l'agression meurtrière nous imposée par le Rwanda.
Quelques pasteurs des églises des réveils présents à cette cérémonie ont salué la portée de cette action, initiée sous la mobilisation du ministre de la Justice, en réponse à l'appel à la mobilisation générale décrété par le président de la République dans le cadre de l'effort des guerres.
En Ituri, ce sont 447 candidats enseignants et directeurs d'écoles primaires qui viennent de passer une première phase de concours pour le compte de la sous-division de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans la ville de Bounia. Ceux qui auront satisfait au concours vont constituer la banque de données nationale de recrutement en cas de besoin. Le sous-provède de Bounia, Rehema Tchenji, explique cette démarche du ministère de l'éducation nationale au micro de Sadiki Aboubakar.
Le mobile, c'est de recruter les enseignants sur base de mérites. On ne peut plus maintenant engager les enseignants sur base de sentiments ou qu'on sort. Donc les enseignants font les concours et les concours sont corrigés dans les systèmes, dans les sites du ministère directement. Et ceux qui vont s'en sortir, on va avoir les résultats à partir de Kinshasa et leurs noms seront gardés dans la banque de données nationale. À chaque fois qu'on aura besoin des enseignants pour le remplacement de décédés ou déserteurs ou qu'on sort, on va aller dans la banque de données là pour piquer les noms de ceux-là qui ont réussi au niveau du cours. Vous savez que nous sommes une province pilote du projet PERS et on a d'abord essayé au niveau des écoles primaires publiques et on verra maintenant avec les ministères comment est-ce qu'on va élargir au niveau des écoles privées et qu'on sort. On a d'abord la partie écrite qui vient de se passer. C'est comme une phase éliminatoire où on a fait la rédaction, on a passé la culture générale sur toutes les deux parties qui ont constitué cette partie-là pour voir, pour d'abord tester les prérequis de l'enseignant ou bien du directeur qui va postuler. Alors maintenant, cette partie est une partie éliminatoire. Les gens qui vont réussir à cette partie vont passer maintenant à la deuxième phase qui va commencer demain mardi. Alors cette phase-là consiste maintenant à passer à la pratique professionnelle.
Retour à la normale à Kavumu dans le territoire de Kabaré. La population vaque librement à ses occupations ce lundi après une journée émaillée de violence hier dimanche lors de la brève présence des Wazalendo dans la cité et sur cet aéroport du Sud Kivu. Mais les écoles n'ont pas ouvert leurs portes ce matin, une mesure prise par les parents et enseignants par mesure de prudence. Et puis controverse autour du bilan de ces échanges de tirs. Certaines sources parlent de 24 personnes tuées tandis que la société civile de la région fait mention de 8 morts et 1 blessé. Notez que Walungu Centre était également secoué par des échanges de tirs dans la nuit de dimanche à ce lundi, mais les informations en provenance de ce coin rassurent que le calme est maintenant revenu et que les gens se promènent librement. Les Wazalendo qui ont attaqué la position du M23 se sont retirés vers leur base arrière. Les échanges de tirs ont entraîné 2 morts et 1 blessé, affirment nos sources sur place. Sud qui vont encore les moyens et au plateau du territoire de Fizi font face à l'escalade de violence suite au combat qui oppose les FRDC soutenus par le Wazalendo et la coalition de groupes armés Tuirwa, Neho, Rumino et consorts. 20 000 personnes affectées par ces conflits vivent à la Belle Étoile sans aucune assistance. L'administrateur du territoire de Fizi qui livre cette information appelle le gouvernement central à tout mettre en œuvre pour restaurer la stabilité dans la zone afin de permettre aux humanitaires de venir en aide aux populations civiles affectées par ces affrontements quasi permanents. Sami Badibanga est au micro de Radio Okapi.
C'est 12 avril 2025, la coalition Tucaneo alliée au M23 AFC, appuyée par le Red Tabara, ont attaqué les positions de FRDC, appuyées par les Wazalendo CNPCC de Yamuri Yakutumba, Fabebe d'Engomanzito et les Wazalendo Kakobanya. Le village Urukezi était déjà tombé entre les mains de la coalition Tucaneo à moins de 50 km du chef-lieu du territoire de Fizi. Le village affecté par ces affrontements sont Urukezi, Centre, Badizi, Madeku, Bikarakara, Barusha, Bialere, Rukela, Kijombo, Urubuka, Kivumbuza, Le bilan provisoire fait déjà état de 25 corps. Plus de 20 000 personnes, femmes et enfants, passent nuit à la Belle Étoile sans aucune assistance humanitaire. Nous lançons un appel à notre gouvernement de pouvoir aider ces personnes déplacées dans les moyens et au plateau de Fizi.
Nord Kivu à présent, l'association des taximens moto de l'axe Massissi-Walikale plaide pour la libération d'au moins 15 de leurs membres arrêtés au Maniema depuis près de 20 jours déjà. Selon le porte-parole de cette structure, ces motards en déplacement vers l'Ubutu suite à l'occupation de Walikale centre par les rebelles du M23 opéré sur l'axe Lubutu-Kailo au Maniema. Depuis le 26 mars, dit-il, il aurait été interpellé par les services de sécurité et renseignement du Maniema. Le porte-parole plaide pour leur libération. Écoutons Amani Bitaha Lucien dans ses propos que nous avons recueilli.
Sommes indignés de voir comment nos frères sont maltraités au chef-lieu de la province du Maniema, à Kindu, pour les motifs que tout le monde ignore jusqu'à présent. Ces jeunes mototaxmens fuyaient la barbarie qui se vit à Walikale un certain temps jusqu'à Lubutu. Ils seront intéressés de dépêcher une marchandise de Lubutu jusqu'à Kailo. Finalement, ils seront arrêtés à Punia, au Poulindi, à Kailo, puis ramener jusqu'à Kindu, le chef-lieu de la province. Et aujourd'hui, personne ne sait la situation de nos frères. Au nombre de 15, avec une lettre portant autorisation de circulation. Ils croupissent dans des cachons de cette contrée-là. Nous demandons qu'une procédure soit engagée pour que nos frères soient remis dans leurs droits, arrêtés sans aucun motif d'arrestation. Être soupçonnés qui ignorent que nous sommes dans une période de guerre.
Actualité internationale.
Au Gabon, le chef de la transition militaire qui dirige ce pays depuis le renversement d'Ali Bongo le 30 août 2023, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du pays pour 7 ans. Il a obtenu 90,35% de voix selon les résultats globaux provisoires annoncés hier dimanche 13 avril par le ministère de l'Intérieur. Une consécration pour ce militaire de carrière formé et promu au sein du système Bongo.
L'invité.
Nous savons que la situation n'est pas facile, mais nous gardons la foi et l'espérance. Tel est le message que Mgr Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse de Goma, a adressé dimanche aux chrétiens de son diocèse à l'occasion de la célébration du dimanche des Rameaux. Pour lui, les difficultés actuelles rencontrées par les chrétiens de Goma ne devraient pas altérer leur foi. L'évêque du diocèse est notre invité dans cet entretien que nous propose Rosalie Zawadi. Il est réalisé en collaboration avec les confrères de Radio Maria Goma. Suivez.
Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma, bonjour. Vous avez célébré la messe du dimanche des Rameaux à la paroisse Bienheureuse Anoirité. Quel est votre message à la communauté chrétienne du diocèse de Goma à cette occasion?
Cette année, j'ai voulu venir célébrer le dimanche des Rameaux ici à la paroisse Bienheureuse Anoirité. Comme vous le savez, j'ai fait le tour des paroisses et j'étais très très heureux de revenir à cette paroisse pour la célébration. Dans cette nouvelle église, une très belle église qui a été construite par les chrétiens eux-mêmes. Et c'était pour moi une grande joie de revenir encore célébrer la messe ici et de voir la joie des chrétiens. C'est pourquoi j'en ai profité pour inviter les chrétiens à la responsabilité. Vous savez, nous sommes dans un contexte difficile. Il y a 2 jours, les gens étaient encore secoués par des tirs la nuit, des armes lourdes. Ils se sont encore rappelés les souvenirs de la guerre. C'est pour nous rappeler que l'insécurité est toujours là autour de nous. Nous avons aussi des crises économiques, la crise monétaire avec la fermeture des banques, la crise économique aussi avec la fermeture de l'aéroport. Avec le commerce qui ne marche pas, puisque les gens n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens. Alors, nous savons que la situation n'est pas très, très facile, mais nous gardons la foi et l'espérance. Le Christ a vaincu la mort, il a vaincu le mal, et il nous a montré le chemin de la gloire, le chemin de sa résurrection, que cela passe aussi par la croix. Alors, c'est une invitation pour nous à porter ce moment où nous sommes en train de vivre comme une croix, à marcher derrière Jésus pour que nous puissions ressusciter avec lui, pour que nous puissions retrouver le chemin de la paix, de la joie, de la fraternité et surtout le chemin de l'amour. Moi, j'ai rappelé cela aujourd'hui. Jésus est mort par amour pour nous. Alors que nous étions pécheurs, lui, il était l'innocent, mais il a accepté de mourir pour nous. Il a donné sa vie et il est allé jusqu'au bout. Donc, il est important que nous aussi, nous sachions aller jusqu'au bout de nos responsabilités, mais par amour pour les autres, par amour pour nos frères, par amour pour les pauvres, mais que nous sachions aller jusqu'au bout comme Jésus.
Et ainsi commence la Semaine Sainte pour cette année dans un contexte particulier, comme vous l'avez dit. Quelles recommandations aux chrétiens de votre diocèse pour cette semaine?
Vous savez, la Semaine Sainte nous conduit vers la célébration de la Pâque. Comme vous savez, la Pâque, c'est la fête de toutes les fêtes, c'est la mère de toutes les fêtes liturgiques. Et c'est une semaine très importante pour nous, chrétiens. C'est une semaine où nous allons célébrer notre foi, une foi vécue. Pas seulement proclamé, mais une fois vécu, nous devons entrer dans la semaine sainte avec foi, avec confiance dans le Seigneur, avec espérance que les situations difficiles que nous connaissons ne puissent être pour nous un obstacle à notre foi. Il faudrait que nous puissions vraiment célébrer toutes les célébrations de cette semaine sainte avec beaucoup d'enthousiasme, avec la confiance surtout dans le Seigneur, que Il a triomphé du mal et il nous mènera nous-mêmes aussi vers la joie, vers la paix, vers la fraternité et vers l'amour. Et surtout vers la justice dans tout ce que nous vivons. Nous devons chercher à être justes, à célébrer la justice de Dieu, à célébrer l'amour du Seigneur et surtout à garder la foi. Nous sommes dans l'année de l'espérance, l'année sainte de l'espérance. Que cette semaine sainte qui commence soit encore pour nous l'occasion de redoubler de foi, de grandir dans l'espérance et dans l'amour fraternel.
Excellence, Monseigneur l'évêque du diocèse de Goma, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est sur cette exhortation de l'évêque du diocèse de Goma que nous bouclons ce journal. Merci à Martha Sebouchango, à Blaise Chindani et à Mimi Kindou. Bon après-midi à toutes et à tous.